Je commencerai en évoquant, non pas la période de la guerre, mais la période qui a précédé la guerre, la période des années 30. Je commencerai d'abord par évoquer ce que racontait en avril 1988, après les élections ou l'élection présidentielle où Le Pen avait réalisé un score massif en Alsace, 22%. Un des plus grands politologues français, le président de la Fondation nationale des sciences politiques, François Gogel. Pourquoi les Alsaciens, jusqu'ici modérés, si l'on accepte leur opposition au moment de la Révolution à l'attribution du statut des citoyens aux Juifs, ont-ils ainsi basculé? Une fois de plus, se manifestait ainsi la méconnaissance fréquente par les Français de l'intérieur, Freddy Wahl vient de l'évoquer, les plus cultivés, des nuances et des méandres de l'histoire de notre région. L'historiographie locale, reléguée par les discours des notables, avait longtemps contribué à diffuser cette vision lénifiante. Nous sommes tous unis, mais aussi nous sommes tous modérés. Unanimiste de l'évolution de notre province au XIXe et au XXe siècle. On ignorait donc en général que le vote d'une partie non négligeable de l'électorat alsacien en faveur de candidats extrémistes n'était pas pourtant la première manifestation de radicalisme politique depuis deux siècles. L'Alsace rurale surtout, passée dans la première moitié du XIXe siècle pour une terre de violence, un peu comme la Corse. Les amorces de pogroms dirigés contre des communautés juives rurales avaient accompagné la révolution de 1830 et celle de 1848. On est loin du monde, de ce monde violent, non violent, apaisé, que l'on nous présente généralement. La renaissance d'un pouvoir d'État fort, français sous le Second Empire, allemand de 71 à 18, français à nouveau à partir de novembre 18, mit fin aux accès périodiques de violence populaire. Agir dans le même sens, la pacification générale des mœurs en Europe occidentale, la mise en place d'appareils d'encadrement des masses rurales et urbaines, aussi divers que les institutions du paternalisme patronal, les associations créées par l'Église catholique ou le mouvement ouvrier social-démocrate. N'empêche qu'au début des années 20, le Bas-Rhin fut l'un des points forts du communisme révolutionnaire en Europe. Et qu'en 1929 encore, un communiste, qui devint très rapidement un dissident, fut élu à la mairie de Strasbourg. À la faveur de la crise économique des années 30, mais surtout à cause de la décadence du régime républicain, les années 30 virent fleurir dans toute la France toute une série de ligues anticommunistes, antisocialistes, antiparlementaires, certaines fort proches du fascisme. Beaucoup d'entre elles étaient nées à Paris, mais elles rencontrèrent dans notre région une audience plus large que dans beaucoup de régions d'outre-Vosges. Leur succès en Alsace était dû surtout, sans doute, à l'accent mis sur l'antisémitisme et ses préjugés qui restaient largement répandus dans une bonne part de la population, ne serait-ce qu'en raison du maintien par les églises de ce que on appellera plus tard l'enseignement du mépris au sujet du peuple déicide. Alors, on vit fleurir en France, mais en Alsace en particulier, toute une série de mouvements d'extrême droite. Je n'en énumérerai qu'un certain nombre. les jeunesses patriotes, dont firent partie de nombreux étudiants de l'école de chimie de Mulhouse et de la faculté de droit de Strasbourg, comme un certain Pierre Punin. On trouvait aussi parmi les médecins, les avocats, les magistrats, et même dans le clergé catholique, des abonnés à l'Action française, séduits plus par le nationalisme intégral et la haine de la démocratie que par le royalisme. Ils étaient séduits par la synthèse réalisée par Maurras entre nationalisme et régionalisme, son plaidoyer pour l'alliance d'un État fort et des libertés décentralisées des provinces et des communes. Ils adoptèrent ensuite, pour la plupart, le pacifisme des Maurrassiens, autrefois pourtant bouffeurs de Bosch, très germanophobes, mais hostiles à partir de 1936, à la perspective d'une guerre judéo-bolchevique contre l'Allemagne hitlérienne. Certains d'entre eux firent même partie de cette conjuration anti-républicaine qui fut déjouée heureusement. C'est le cas par exemple d'un industriel de Tann, Paul Dindler, qui fut plus tard d'ailleurs un des futurs chefs de la résistance que j'appellerai maréchaliste en zone sud pendant la guerre. Plus vulgaire, le francisme de Marcel Bucard, qui se présentait comme un fascisme français, et était financé par Rome et ensuite par Berlin. Ses militants portaient un uniforme bleu et saluaient à la romaine. Il fut implanté en Alsace par un professeur de l'enseignement privé, Paul Guiraud, qui exaltait l'État totalitaire, incarnation de tout le peuple, du peuple en totalité, expression d'une croyance commune, d'une volonté commune, d'une pensée, d'une sensibilité commune. Il fallait en finir avec toutes les oppositions, intégrer tous les citoyens, de bonne origine du moins, depuis la prime enfance dans des organisations officielles, ne plus parler de libertés individuelles et travailler à l'autodéfense ethnique du peuple. En d'autres termes, décréter des lois d'exclusion contre les juifs et les étrangers. Dans le franciste d'Alsace-Lorraine, on dénonçait les juifs internationaux, horde de pillards et d'escrocs qui abusent de l'hospitalité de notre patrie. Les croix de feu du colonel de la Roque avaient des sections dans de nombreuses communes des deux départements et avaient recruté des milliers d'adhérents dans tous les milieux. Ils acceptèrent en 1936, pour se conformer à la loi interdisant les milices paramilitaires, de se transformer en Parti Social Français, PSF. Des élections cantonales d'octobre 1937, la plupart des candidats de la droite classique, que ce soit les démocrates ou l'UPR, c'est-à-dire le Parti catholique, recherchèrent l'investiture ou le soutien du PSF. Plus national-populiste, chrétien-social que fasciste, plus proche de Salazar ou de Dollfuss que de Mussolini et d'Hitler, le colonel de la Roque annonçait la construction d'un État rénové fondé sur le travail, la famille et la patrie. La devise fut reprise ensuite par Pétain, refusant la lutte des classes. S'il voulait réserver la France aux Français, lui-même condamnait explicitement le racisme et l'antisémitisme, du moins à l'égard des juifs français. Mais les dirigeants alsaciens du parti, comme ceux d'ailleurs d'Algérie, refusèrent de renoncer à cette thématique qui permettait de mobiliser à des fins politiques les pulsions issues de la nuit des temps. Dans les campagnes, le PSF se heurtait à la concurrence d'une organisation née dans la région, l'Union paysanne, le Bauernbund, les chemises vertes du nom de l'uniforme que leur avait donné leur leader Joseph Vilger. Au départ, il s'agissait d'un syndicat des petits paysans, animateurs de coopératives très efficaces, en particulier pour le contrôle du marché laitier. Mais son leader, Joseph Bilger, avait des ambitions politiques régionales et nationales. Au nom de Jeanne d'Arc, il voulait instaurer la 4e République des ouvriers et paysans en détruisant la puissance des brigands talmudistes internationaux et des usuriers circoncis. Il réclamait aussi une entente économique entre la France et l'Allemagne et une autonomie au moins économique de l'Alsace-Lorraine. Ce sont les tracts du Bauernbund, largement distribués dans l'affolement de la crise de septembre 38, la crise des Sudètes, et de la mobilisation partielle de la fin septembre 38, qui provoquèrent à Strasbourg un début de pogrom contre des boutiques tenues par des Juifs à la veille des accords de Munich. On sera peut-être surpris que ce tableau des extrémismes alsaciens de l'entre-deux-guerres ne commence pas par une analyse de l'autonomisme. L'autonomisme n'était pas forcément un extrémisme antidémocratique. Il s'était développé à la suite du retour de l'Alsace à la France dans les générations sacrifiées, celles qui avaient passé par le système scolaire, éventuellement universitaire, de l'Allemagne impériale et avaient des difficultés d'adaptation à une France jacobine qui ne faisait que des concessions limitées au bilinguisme. Dans certaines familles, imprégnées de langue, de culture, de religiosité et de tradition allemande, on avait la nostalgie de l'efficacité et du sérieux du Kaisersystem face au désordre qui caractérisait la France de la Troisième République. Pour rester dans un cadre légal, les autonomistes se disaient partisans de l'autonomie de l'Alsace ou de l'Alsace-Lorraine dans la République française. Il est vrai que dans leur fort intérieur, beaucoup de ces Heimatrechtler, défenseurs des droits de la petite patrie, rêvaient soit d'une Alsace souveraine, peut-être dans le cadre d'une fédération rhénane avec la Suisse et la Rhénanie, soit d'un retour à l'Allemagne. D'ailleurs, la République de Weimar aida financièrement la presse autonomiste sous couvert de défense de la germanophonie. Paradoxalement, le Troisième Reich, qui désirait retarder l'affrontement avec la France, fut plus prudent dans ce domaine, sans jamais couper les ponts. Comme les droites extrêmes d'obédience française, l'autonomisme ne réussit jamais avant 1940 à réaliser son unité. Ses militants se recrutaient surtout à Strasbourg et dans les campagnes protestantes de l'Alsace du Nord ou de la vallée de Münster, dans des milieux où le luthéranisme avait maintenu un contact étroit avec la culture et la langue allemande et où la politique d'assimilation menée par la France jacobine avait créé un malaise durable. Il faut mettre à part la Fortschrittspartei, parti progressiste, et surtout son leader, Camille Dallet, député de Saverne et conseiller municipal de Strasbourg, dont les convictions étaient républicaines et antifascistes. Par contre, les autres formations autonomistes sympathisèrent à partir de 1933 avec le régime hitlérien. C'était le cas de la Landespartei de Karl Rose, de la Jungmannschaft de Hermann Bickler, et à partir de 1935, de l'Arbeiter- und Bauernpartei, parti ouvrier et paysan, des députés de Strasbourg ex-communistes, Charles Hubert et Jean-Pierre Mourer. Ils s'appuyaient aussi sur des mouvements culturels comme l'Erwitzbund de Fritz Spießer, qui conviait les jeunes villageois d'Alsace du Nord à entretenir leur germanité par la danse folklorique et le chant choral. Dans leur presse s'exprimait leur aversion pour le laisser-aller belge et leur haine des intrus, ceux aux nez crochus et aux cheveux frisés, et ceux qui viennent des régions perdues de l'intérieur ou de l'orgueilleuse capitale au bord de la Seine. Je cite Fritz Spießer. Si l'on excepte les sièges des députés de Strasbourg et Saverne, et quelques mandats de conseils généraux, l'autonomisme déclaré n'avait pas remporté, avant 1939, de victoire électorale massive. Le pouvoir politique restait largement entre les mains de deux partis de droite dominants dans notre région, l'Union populaire républicaine, l'UPR, le grand parti catholique, et le parti républicain démocrate, dominé par la grande bourgeoisie protestante et quelques notables juifs. Paradoxalement, certains des dirigeants les plus dynamiques de ces formations républicaines avaient, dans une large mesure, fait leur les thèmes porteurs des adversaires de la démocratie, et plus particulièrement l'antisémitisme justifié par la haine portée à Léon Blum et à son entourage, surtout à partir de la victoire du Front populaire en 1936. Le porte-parole le plus violent de cette tendance était Joseph Rosset, député UPR de Colmar et leader de l'aile autonomiste du Parti catholique. Un épisode illustre bien cette radicalisation de la droite modérée et son refus de considérer comme légitime le gouvernement du Front populaire. Une nuit de juin 1936, la plupart des chefs politiques des deux départements se retrouvèrent à Colmar et envahirent la préfecture pour exiger du préfet l'intervention immédiate des gardes mobiles pour mettre fin à la grève des ouvriers agricoles de la ferme Schlumberger de Guebwiller, la plus grande exploitation viticole et agricole d'Alsace. Ils ne parvinrent pas à leur fin, mais une minorité rêvait d'aller plus loin. L'exemple donné par les nationalistes espagnols en juillet 1936 incita certains dirigeants parisiens de droite à envisager de déclencher un putsch pouvant déboucher sur une guerre civile. L'Alsace, avec ses garnisons, dont certains chefs étaient proches des comploteurs de la cagoule, aurait pu devenir sa base arrière, une nouvelle Vendée, selon Brasillach. Une colonne partie du Rhin devait marcher sur Paris pour en chasser les étrangers et les esclaves de Moscou, et la France n'était pas encore mûre pour ce type d'aventure. Je ne dirai que quelques mots sur ce qui va se passer en 1940. On explique souvent le ralliement d'une partie assez importante, il faut bien le dire, de l'opinion publique alsacienne en 1940 à l'Allemagne nazie par un abandon dans lequel la France aurait laissé l'Alsace et la Moselle. C'est un pur mensonge. On peut parler, on peut dire qu'on pouvait évidemment regretter ou s'indigner de la façon dont la France avait préparé la guerre et dont elle mena la guerre en 1940. Dire que l'Alsace, comme l'écrit un honorable conseiller général dans un de ses derniers numéros des Saisons d'Alsace, fut abandonné par ses dirigeants français en juin 1940, c'est vraiment un pur et simple mensonge. Ce qui est arrivé en 1940, quand la Wehrmacht a pénétré en Alsace, c'est que les préfets du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle étaient restés en place. Le préfet du Bas-Rhin n'était pas à Strasbourg, puisque Strasbourg était évacué, il était dans la vallée de la Bruche, mais l'une des premières mesures prises par les Allemands en arrivant, ce fut d'arrêter les préfets. On ne peut pas parler d'abandon, c'est de toute façon, ils étaient hors d'état de nuire, hors d'état d'agir, de même que tous les fonctionnaires français encore en place furent immédiatement remplacés par des équipes très bien préparées, venues de Bade, pour occuper toutes les fonctions importantes. Suivi très rapidement aussi par les fonctionnaires du parti, du parti nazi et par la police allemande, et notamment par la CIPOSD, c'est-à-dire la Gestapo. Comment peut-on mesurer l'attitude des Alsaciens face à cette occupation? Face à cette occupation qui très rapidement se révélera être une annexion déguisée. Comme l'a écrit il y a longtemps déjà Freddy Wahl, en Alsace on ne peut pas parler de collaboration, on peut parler que de ralliement au régime hitlérien, puisque, à la différence de ce qui se passe dans la France occupée, l'administration et le gouvernement français ne sont plus en fonction, l'Alsace est tout de suite considérée comme une terre allemande. Le système totalitaire s'est immédiatement implanté dans toute sa perfection, en facilitant d'une part le ralliement, l'adhésion de ceux qui se réjouissent de voir l'Allemagne arriver, certains se faisant encore des illusions parce qu'ils considèrent que revient l'Alsace, l'Allemagne de 71 à 18, c'est-à-dire un État ordonné, efficace, mais relativement libéral, et avec une base démocratique. D'autres sont parfaitement conscients que ce régime va leur apporter un système totalitaire auquel ils adhèrent très rapidement, en adhérant aux différentes organisations mises en place dès juillet 1940. En juillet 40, fin juin 40 déjà, à Colmar, l'adjoint du Gauleit, Robert Ernst, un des Alsaciens ralliés à l'Allemagne et qui avait choisi l'Allemagne en 1918, crée l'Elsässische Hilfsdienst, c'est-à-dire une organisation qui est plutôt une organisation qui se présente comme une organisation de solidarité, de bienfaisance, destinée en particulier à aider les sinistrés des combats de juin 40 et à faciliter la réinstallation des évacués qui vont rentrer au cours de l'été 1940, qui vont être rapatriés de la France du Sud-Ouest. Mais ces militants de l'Elsässische Hilfsdienst ne vont pas être invités à se borner à des organisations de solidarité, d'entraide. On va aussi les convier à participer à de grandes assemblées, des grands meetings qui vont se dérouler dans toutes les grandes villes, dans toutes les villes alsaciennes à partir de la fin juillet 1940, les meetings de la Grosse Wende. La parole y est donnée essentiellement à ceux qu'on appelle les Nanziger, c'est-à-dire aux autonomistes qui avaient été emprisonnés par les Français en septembre 1939 parce que susceptibles d'aider l'ennemi, puisque l'Allemagne était devenue l'ennemi. Puis, à partir d'octobre 1940, l'Elsässische Hilfsdienst est dissous, et un mouvement nettement plus politisé lui fait place, c'est l'Opfering, le cercle du sacrifice, qui doit suppléer provisoirement au parti, puisque le parti nazi ne recrutera officiellement des Alsaciens qu'à partir de 1942, en fait déjà à partir de 1941. L'Opfering s'accompagne, l'implantation de l'Opfering s'accompagne de l'implantation de toute une série d'organismes et de personnalités qui doivent encadrer la population. Selon les mêmes méthodes et avec les mêmes titres qu'en Allemagne nazie. C'est par exemple toute la hiérarchie des chefs des organisations politiques, des Kreisleiter, c'est-à-dire les chefs politiques d'arrondissement, chefs nazis de l'arrondissement. Pour ces Kreisleiter sont nommés Kreisleiter un certain nombre des chefs autonomistes et des Nanzigers, de ceux qui avaient été emprisonnés à Nancy, comme Bittler, l'ancien chef du parti autonomiste, comme Maurer, ancien député communiste, devenu le chef de l'Arbeit und Bauern, l'un des chefs de l'Arbeit und Bauern Partei, nommé Kreisleiter de Mulhouse. En fait, la fonction de Kreisleiter, c'est la fonction la plus élevée qui est donnée à des Alsaciens. On ne leur donne pas de fonction d'ordre régional, d'autorité d'ordre régional. Celles-ci sont presque toutes réservées à des Badois. En dessous des Kreisleiter, il y a toute une hiérarchie de petits chefs qui doivent encadrer la population, les Zellenleiter, chefs de la cellule, c'est-à-dire en fait de la section du parti, soit dans la commune pour les petites communes, soit dans le quartier pour les villes, le Blockleiter qui est chargé de surveiller et d'impulser la vie politique et l'engagement politique des habitants d'un carré de maison. Certains sont nommés Propagandaleiter. Et puis, il y a aussi toute une série d'organisations nazies qui se mettent en place et auxquelles, finalement, tout le monde doit choisir d'adhérer. Les plus actifs adhéreront à la SA, qui joue le rôle d'une police auxiliaire. Ceux qui qui trouvent que c'est une organisation technique choisiront la NSKK, c'est-à-dire le corps national socialiste des chauffeurs d'automobile, mais on ne fait pas que de la conduite et de la mécanique automobile. Les jeunes vont être incités à entrer soit à la jeunesse hitlérienne pour les garçons, soit à la BDM pour les filles, incités jusqu'à la fin de 1941, obligés à partir de janvier 1942, où est introduite l'obligation pour les adolescents et pour les jeunes filles d'entrer aux jeunesses hitlériennes. Les femmes doivent entrer à la Frauenschaft, les paysans à la Bauernschaft, les ouvriers, les salariés sont obligatoirement membres de l'Arbeitsfront, du Front du Travail, qui est censé remplacer les syndicats, mais a évidemment un rôle tout à fait différent, et qui se charge d'ailleurs d'encadrer aussi les loisirs grâce à Kraft durch Freude, la force par la joie. À partir de 1941, commence la propagande pour les engagements volontaires dans la Wehrmacht ou la Waffen-SS. Dans ce domaine, nos connaissances actuelles font pencher pour un insuccès des Allemands. En effet, il y eut très peu de jeunes Alsaciens à s'engager volontairement soit dans les unités de la Wehrmacht, de la Luftwaffe ou de la marine allemande. Il y en a eu plus après l'introduction du service militaire pour ce qui est de l'aviation et de la marine, mais pour des raisons très compréhensibles. Il s'agissait, en entrant dans la marine ou dans l'aviation, d'éviter l'envoi sur le front de l'Est. Ou bien dans la Waffen-SS. Au total, il semble bien que le nombre des volontaires d'origine alsacienne n'est jamais dépassé 2700. En mars 1942, on demande une statistique aux municipalités, combien de vos agents, vos fonctionnaires ont adhéré, se sont engagés volontairement. La ville de Mulhouse en compte 4. La ville de Strasbourg, qui a quand même 5 ou 6 000 employés, en compte 40. Engagés volontaires. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu de ralliés et de ralliés convaincus. Ces ralliés convaincus, où se recrutent-ils? Ils se recrutent, dit-on, souvent dans les familles mixtes, de père ou de mère allemand, dans les familles protestantes de l'Allemagne du Nord, on a déjà dit tout à l'heure, que c'était un milieu de culture germanique, mais s'y ajoutent évidemment beaucoup d'ambitieux qui jugent la victoire d'Hitler définitive et pensent qu'il vaut mieux être du côté du manche et que c'est peut-être un très bon moyen de progression sociale. Il y a aussi ceux que l'uniforme et les grandes manifestations, le pas cadencé, etc., etc., ont attiré. Et puis aussi, il y a un certain nombre de dirigeants de la vie économique, de commerçants et d'industriels qui veulent profiter de la prospérité économique allemande avec l'avantage qu'ils avaient de bien connaître aussi les entreprises françaises et de pouvoir servir ainsi d'intermédiaire pour l'exploitation économique de la France occupée. Fin 1942, environ 12 000 Alsaciens ont adhéré au parti, 2 000 à la SS, 13 000 à la SA. En juin 1944, le nombre des membres du parti serait monté à 25 000 en ce qui concerne les Alsaciens d'origine, et 50 000 pour les Reichsdeutsche intégrés en Alsace. Évidemment, l'attitude de la population alsacienne va à partir de 1942, évoluer considérablement. Les événements qui l'expliquent, c'est d'une part l'incorporation de force décidée à la fin du mois d'août 1942, alors qu'au début de qu'en 1940, Robert Ernst avait expliqué que jamais les Allemands victorieux n'auraient besoin des soldats alsaciens qui avaient déjà dû servir dans l'armée française et qu'on ne n'embêterait plus. Et puis, à partir de Stalingrad, du débarquement allié en Afrique du Nord, la guerre semble changer d'avenir. La victoire incontestable et incontestée d'Hitler d'un 40-41 semble de plus en plus douteuse, et évidemment l'enthousiasme patriotique et nazi diminue considérablement. Ceci dit, je ne partagerai pas la conclusion qu'en tire Jean-Laurent Vénot dans son article sur la collaboration. Selon lui, seuls 3% de la population alsacienne s'était véritablement ralliée au nazisme et opprimée, participer à l'oppression de 97% de la population. Je pense que les choses sont plus compliquées. Et cela, évidemment, va peser sur l'avenir. Ça pesera sur l'avenir, je ne fais qu'évoquer les problèmes qui suivront et qui ont joué une grande influence sur l'évolution de l'opinion alsacienne moyenne. Il y a eu l'épuration. L'épuration a été moins terrible, moins brutale que dans certaines régions du Midi de la France, après sur la collaboration et le pétainisme, mais elle a quand même été assez vigoureuse en Alsace en ce qui concerne l'épuration administrative et professionnelle. Il y a quand même beaucoup de fonctionnaires, de cheminots qui ont été soit sanctionnés, soit révoqués, soit rétrogradés. L'épuration judiciaire a été relativement dure en Alsace, mais elle a été quand même, elle n'a frappé que de façon un peu assez inégale, mais ce n'est pas une caractéristique de l'épuration judiciaire en Alsace, ça a joué dans beaucoup d'autres régions de la même façon, et en particulier ce qu'on appelle la collaboration économique n'a pas été beaucoup plus sanctionné en Alsace que pour ce qui est des entreprises qui ont construit le mur de l'Atlantique. Les autres problèmes dont nous parlerons sans doute dans la discussion, c'est évidemment les conséquences de l'incorporation de force, le problème de la captivité en Union soviétique, et notamment du plan de Tambov. Ça a beaucoup joué, et puis ça a été le particularisme alsacien a été revivifié en quelque sorte par le procès de Bordeaux, 1953, en mars 1953, février 1953, qui a jugé 13 malheureux jeunes Alsaciens incorporés de force dans la Waffen-SS qui avaient participé au massacre de Radour, où ont péri une quarantaine de réfugiés mosellans et une dizaine de réfugiés de Schildigheim. Il faut bien dire que ce procès a soulevé une grande émotion, qui est dans une certaine mesure compréhensible, dans la mesure où les chefs du massacre, ceux qui ont décidé le massacre, ceux qui l'ont organisé, n'ont jamais été punis.